Bonjour, je m'appelle Pauline Maria et je vous accueille dans ce podcast qui parle de la vie et des chemins qu'elle peut nous faire emprunter. Car si pour certains les routes semblent toutes tracées, d'autres sont amenés au gré du hasard, des rencontres, des envies ou de leurs convictions à prendre des petits sentiers de traverse, à bifurquer, à redessiner le chemin. Que ce soit sur le plan personnel, intime ou professionnel, les femmes et les hommes que vous allez entendre ici ont tous un point commun. Un beau jour, leur vie a pris un tournant. Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Amir. Enfant, Amir a une obsession, celle de rendre ses parents fiers de lui. C'est donc tout naturellement qu'il s'oriente vers la médecine pour suivre les traces de son père et décide d'entamer des études de dentiste. Mais Amir a toujours été artiste. Et s'il avance brillamment dans la voie dentaire, la musique ne cesse de se glisser sur son chemin. Jusqu'au jour où il reçoit un coup de fil de la production de The Voice, dans un endroit assez insolite comme vous pourrez le découvrir. C'est en participant à l'Eurovision que sa vie prend véritablement un tournant et qu'il prend sa place dans le cœur des Français. Derrière cette voix solaire et ce sourire chaleureux, se cache un grand travailleur qui aime les challenges et ne se repose jamais sur ses acquis. Pour preuve, Amir va nous parler également d'un incroyable nouveau virage qui s'offre à lui en ce moment même. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amir.
Bonjour Pauline.
Comment ça va ?
Super, merci.
Je te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à moi pour enregistrer un épisode.
Moi aussi, ça me fait plaisir que tu m'invites.
On va parler d'un virage que tu as pu prendre dans ta carrière, au départ, tu étais partie pour devenir dentiste. Et la vie, on a décidé autrement, pour le plus grand bonheur de ton public et le tien aussi, je crois.
En effet.
On va d'abord parler d'Amir le dentiste. J'ai l'impression que c'était important pour toi de connaître ce statut de médecin. Est-ce que tu as l'impression que c'était un choix de passion ou plutôt un choix de raison que de te lancer là-dedans puisque ton père était dans le domaine médical ?
Je pense que la deuxième option est plus juste. C'était un choix de raison et presque pas un choix finalement. Non pas parce qu'on m'a forcé à le faire, mais je crois qu'en tant que fils aîné, qui a très envie d'être un modèle pour ses frères et sœurs et aussi veut être la fierté de ses parents dans une dynamique très réciproque en fait. Mes parents ont beaucoup donné pour mon éducation. Dans ma tête, je me suis dit, ce qui les rendra forcément fiers, c'est si je fais un parcours scolaire prestigieux. Donc, étant venu d'une famille où il y avait beaucoup de gens dans le corps médical, l'option de la médecine me paraissait depuis enfant la plus naturelle. Et puis, avec les années à l'école, je me suis très naturellement trouvé intéressé par les sujets de science et de biologie, sciences humaines, tout ce qui était lié à ce monde-là m'intéressait un peu plus que le reste des métiers. Donc, je pense qu'au départ, il s'agissait d'un chemin naturel que j'avais pas envie de bousculer. Et par la suite, ça m'a paru comme l'option la plus logique et...
La plus sage.
Non seulement sage, mais en plus cohérente avec mes goûts, quoi. Je dirais que plus tard, le choix véritable s'est fait quand j'ai décidé de ne pas partir et apprendre la médecine et de m'orienter vers la chirurgie dentaire. Là, je crois que j'étais un peu plus affirmé, plus adulte. Et que même si on n'a pas de dentiste dans la famille, par pragmatisme, je me suis dit, c'est moins d'années d'études, c'est le même doctorat, plus ou moins, et surtout après, il semblerait que la vie professionnelle peut être plus facile. Moins d'obligations, on gagne bien, et franchement, c'était du pragmatisme simple. Hein. J'ai fait mon calcul et je me suis dit, même si papa aurait préféré que je reprenne son affaire de radiologie un jour, je crois que je préfère être dentiste.
Mon histoire est ailleurs.
Ouais.
Et c'est un sacré paradoxe chez toi qui est très intéressant parce que quand on écoute beaucoup d'artistes, on a parfois l'impression qu'il y a cette absence de choix, le fait de devoir absolument faire ça et rien faire d'autre. Et toi, si on ressent très fort cette force artistique depuis le départ, c'est vrai que tu es quand même allé très loin dans une voie difficile et ça fait aussi un petit peu ta force à toi.
Tu sais, je reconnais évidemment avoir une part d'artiste en moi parce que c'est l'essence de tout. Mais j'ai toujours eu les pieds sur terre. J'ai toujours été un gestionnaire de ma vie au départ et par la suite peut-être aussi un gestionnaire de ma carrière. Je connais beaucoup de copains artistes qui résonnent en étant artistes purs et en ayant beaucoup de gens autour d'eux qui les orientent sur les choses un peu plus terre à terre, alors que dans mon cas, c'est plutôt la part d'artiste que j'essaye de développer davantage, parce que, encore une fois, peut-être quand on cherche dans l'enfance, et je sais que la psychanalyse tourne autour de ça, le fait d'être fils aîné dans une famille quand même assez exigeante m'a amené à être très responsable. Papa n'était pas là en plus, donc je jouais un peu sur deux terrains avec mes petits frères et sœurs, et j'aidais maman à les élever d'une certaine manière, à une échelle. Hein. Peut-être que j'abuse un peu si on pose la question à ma mère, mais je me sentais quand même aussi proche d'elle et de ses ambitions qu'un membre de la fratrie. Je sais que même si j'ai toujours aimé faire mon spectacle, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours été passionné par le devant de la scène, c'est cette chose qui nous anime et qui est presque animale, dont on a véritablement besoin pour être heureux. En parallèle de ça, je savais comment on structure une vie, quels sont les choix les moins risqués pour assurer son avenir. Il n'y avait pas besoin de me forcer à le faire, en fait.
Oui, bien sûr. Et en plus, la vie t'avait mis des bâtons dans les roues parce que tu es sourd d'une oreille, donc ça n'a pas dû non plus être évident. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme quelque chose qui t'éloignait un petit peu de ce rêve, ou au contraire, le compétiteur que tu es l'a vécu comme un challenge ?
Je t'avoue que j'ai, de manière naturelle, je n'ai jamais fait le rapprochement entre mon problème d'audition et mon rapport à la musique. Étant donné que je suis né comme ça, pour moi, entendre d'une oreille, c'est absolument naturel. Donc, même si je comprends que la plupart des gens ont la stéréo et que moi je ne l'ai pas, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Donc, je ne vois pas ça comme une lacune. Et d'ailleurs, je dois beaucoup cette approche à ma mère, qui a toujours été extrêmement bienveillante, qui n'a jamais voulu considérer que je suis handicapé ou limité. Et donc, m'a toujours donné cette foi en mes capacités. Alors, je pense que très très vite, on avait éliminé la possibilité d'un handicap qui m'empêcherait de faire quelque chose. Et je t'avoue que paradoxalement, si je dois pointer du doigt un problème objectif qui était lié à mon audition, il s'exprimait pas dans la musique, mais à l'école, justement. C'est-à-dire que si je pousse le trait, on aurait presque pu imaginer que j'aurais plus de mal à devenir dentiste avec mon problème d'audition que chanteur, tout simplement parce que en classe, en fonction de là où je tourner ma tête, des fois j'entendais pas la prof et il suffit de manquer une phrase, après on va pas toujours déranger son camarade de classe pour savoir ce qu'elle a dit, etc. Donc ça a beaucoup aussi influé ma capacité à me concentrer sur un cours. Si j'étais très focus, je faisais un effort et j'arrivais à suivre, mais des fois il suffisait d'un moment d'inattention, de tourner la tête parce que j'ai entendu un bruit ailleurs et j'étais très dispersé. Donc c'était surtout ça qu'il fallait réussir à combler par certains efforts.
C'est hyper intéressant. Et donc, en même temps que tu continues tes études pour devenir dentiste, la musique est quand même omniprésente dans ta vie. Tu participes notamment à l'émission de la Nouvelle Star en Israël, mais ça se passe pas tout à fait comme en France, puisque tu vis quelque chose d'assez traumatisant sur un prime qui marque la fin de ton aventure. Est-ce que tu peux raconter cet épisode ?
Je me suis retrouvé avec quelques mois libres devant moi avant de commencer mes études de dentaire et j'aime pas m'ennuyer. Je suis tombé sur l'annonce d'un casting pour la Nouvelle Star, je me suis dit parfait, j'ai le temps de le faire maintenant, la chanson c'est ma passion, tentons l'aventure. Pour moi j'avais une chance sur un million d'être pris et finalement j'ai été pris, alors qu'autour de moi tous avaient une certaine expérience, j'en avais pas du tout. Et dans mon troisième live, alors que je suis vraiment dans l'émission, qu'on fait les directs et j'ai été pris, je me trompe sur le texte. Maintenant, aujourd'hui, ça me paraît absurde d'en faire une histoire parce que on doit savoir improviser sur scène. Mais aujourd'hui, je suis professionnel. À l'époque, je n'avais absolument aucun repère, aucune maîtrise du direct. Et j'avais l'impression que tout m'échappe à partir du moment où, au lieu de chanter la phrase du deuxième couplet, je chante celle du dernier couplet. Ben, j'ai foiré la chanson. Et comme c'était un duo, alors je m'en voulais aussi d'avoir fait foirer le titre pour mon camarade. Et comme on est sur une phase éliminatoire, peut-être qu'à cause de moi, il va se faire jeter de l'émission. Donc, toutes ces pensées me traversent la tête très vite. Et je décide de baisser les bras. Je perds mes moyens. Je m'assois sur le sol et je fonds en larmes. Évidemment, et je peux comprendre, on me dit que je ne continue pas l'aventure. Et c'est là, en gros, que se finit pour moi mon rapport à la musique. En tout cas, à cet instant précis, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, de toutes les façons, je sais que je vais être dentiste et que je vais commencer mes études dans 3 mois. Donc, voilà, c'était agréable, c'était enrichissant, mais on va penser à la suite maintenant.
Oui, donc là, pour toi, c'était plus du tout une option, c'était pas... T'étais dans autre chose, tu rentrais en temps.
Déjà, j'ai abordé ce truc de Nouvelle Star comme un divertissement temporaire. À aucun moment, je me suis dit, ça va me faire éclore. Déjà, je croyais pas que j'allais être pris, alors encore moins, j'imaginais que ça allait me lancer sur une carrière. Mais ce qui m'a surpris par la suite, c'est que même si j'ai en effet repris mes études et je suis devenu un élève à plein temps, peu à peu, ces bribes de souvenirs de la Nouvelle Star, l'émotion que j'ai pu ressentir au moment où on m'a donné une scène, un public, une base fan et des musiciens professionnels, je crois que ça commençait à faire écho en moi, un peu tardivement, mais je me suis dit, c'est fou, là, aujourd'hui, je suis en train de me fatiguer à faire des études super dures, alors qu'il y a 3, 4, 5 mois, j'étais en train de vivre mon rêve et c'était exaltant et j'adorais ce que la vie m'a offert. Et donc, les études continuent. Mais en parallèle, grandit en moi cette part de frustration, ou en tout cas de nostalgie, d'un truc incroyable et magique que j'ai eu la chance de vivre. Donc je deviens dentiste peu à peu, par la force des choses, je valide mes années, je fais mes examens, je fais tout ce qu'il faut, j'apprends le métier. Mais plus ça va, plus je me dis, non seulement j'ai adoré chanter, mais en plus je pense que je suis capable de faire même mieux aujourd'hui, parce qu'entre-temps, j'ai pris des cours de guitare sur YouTube. J'étais à la fac et ça m'occupait toutes les après-midi en rentrant dans ma petite piole d'étudiant. J'ai même pris des cours de chant par correspondance, en visio. J'étais en train de me former en parallèle, sans le savoir, à un truc qui me passionnait. Et donc, forcément, la comparaison était difficile pour moi. Quelque part, je me sens happé de plus en plus fort par un truc qui est beaucoup, beaucoup plus émouvant, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus... Enfin, ça me paraissait extraordinaire le degré de plaisir que je pouvais prendre rien qu'en chantant une chanson avec la guitare dans mon salon.
Ouais, et c'est dans ce contexte où tu continues un petit peu à nourrir cette envie d'artiste que tu reçois un jour un coup de fil improbable pour participer à The Voice alors que tu es au commissariat avec un ami pour...
Alors là, tu as fait avance rapide parce qu'il y a eu une ou deux étapes qui ont joué un rôle important, je dirais. En 2008, je suis en deuxième ou troisième année de fac. Un des trucs que j'avais fait pour m'amuser, parce que je te disais, je jouais à la guitare, je postais des vidéos sur les réseaux sociaux, comme beaucoup d'amateurs le font. Et une de mes reprises, c'est Patrick Bruel, en hébreu, avec la chanson « Je te le dis quand même ». Des proches envoient la chanson à la production de Patrick Bruel, il la remarque donc, et me dit « Écoute, ça m'a beaucoup touché, j'aime ce que tu fais, j'aime ta voix, et comme je vais chanter à Tel Aviv bientôt, je t'invite à monter avec moi sur scène ». Pour l'étudiant que je suis, là, on est en train de vivre le rêve absolu. C'est pas possible. Cet artiste-là, il va y avoir 15 000 personnes dans la foule. Je vais vraiment chanter avec lui. Déjà, c'était énorme pour moi. Donc, cette étape a beaucoup joué dans ma confiance en moi et en tant que chanteur, hein, et mes capacités, et m'a poussé à aller travailler encore plus ce truc. Et quand j'ai fini mes études, pendant plusieurs mois, j'ai décidé de me consacrer à la chanson, me disant que le cabinet peut attendre un petit peu, mais voilà, je suis enfin libre totalement, et ce truc-là que je pouvais faire que à temps partiel, parce qu'en parallèle j'avais ma vie scolaire, là je vais pouvoir le pratiquer à plein temps, et rien que pour mon esprit, mon âme, ma satisfaction personnelle, ça me fera probablement du bien. Et j'ai continué à poster des vidéos sur les réseaux, et c'est là qu'intervient ce coup de fil, alors que je suis en vacances à Paris, et un pote me dit, il faut que j'aille au commissariat me plaindre sur le voisin, il m'a fait des trucs relous et tout. Je l'accompagne, parce que
T'es un bon pote.
Je suis un bon pote, et puis j'ai des journées libres, je suis en vacances. Ouais. Et là, je reçois un coup de fil complètement inattendu d'un numéro français, alors que je suis avec ma puce israélienne à l'époque. Je me dis, qui va me téléphoner jusqu'en Israël, même si ça va me coûter une blinde, je vais répondre. Et je réponds. Et là, on me dit, bonjour, c'est, je sais plus quel prénom, des castings de The Voice. Maintenant, j'ai très envie de mener cette discussion. Et je suis content d'y avoir répondu, mais je suis quand même étudiant à la fac, j'ai pas un rond. Je vois qu'autour de moi, à part le téléphone du commissaire, il n'y a pas d'autre choix. Je lui demande, excusez-moi, j'ai pas de batterie, c'est un appel urgent, est-ce que vous pouvez me donner le numéro du commissariat pour qu'on m'appelle ici? Et c'est ce qu'il fait. Et donc, je reçois ce coup de fil au commissariat, et je mets en place mon premier rendez-vous de casting pour The Voice France dans un commissariat à Saint-Maurice en banlieue parisienne.
C'est hyper marrant comme histoire.
Ouais, c'est assez fou. Et puis, j'avais toutes les raisons du monde de ne pas répondre. Mais je sais pas, ça m'avait intrigué. Et heureusement que je l'ai fait parce que je ne serais pas devant toi aujourd'hui sinon.
Et donc là, quand tu commences à rentrer dans l'aventure de The Voice, tu commences avec une toute autre approche que quand tu avais fait La Nouvelle Star. Est-ce que là, tu avais vraiment l'idée que ça se transforme en une carrière artistique ?
Je pense que mon instinct de compétition et quelque part de revanche sur la vie demandait à ce que j'aborde le truc avec tout ce que j'ai pu assimiler de qualité, de confiance et de professionnalisme en tant que chanteur entre La Nouvelle Star et The Voice. Pour moi, The Voice, c'était la deuxième occasion, la deuxième opportunité de réparer ce que j'ai pu pas bien faire dans ma première expérience de télécrochet. En gros, j'étais même tiraillé entre le fait de ne pas le faire parce que déjà j'étais convaincu que j'allais devenir dentiste et même si j'adore la musique, je vis pas en France et puis j'ai déjà fait un télécrochet et ça s'est pas super bien passé. Donc ça c'était ma partie raisonnable qui disait ça va, je suis pas l'archétype du mec qui va foncer sur toutes les téléréalités qu'on lui propose. Moi ce que je voulais c'était pas forcément la fame. C'était surtout d'avoir une expérience musicale enrichissante. Donc voilà, The Voice, de ce point de vue-là, ne m'attire pas trop. En revanche, en parallèle, je me dis, aujourd'hui, la plupart des gens se rappellent de toi comme celui qui s'est évanoui à La Nouvelle Star. C'est pas l'occasion de rectifier ce truc et de faire un beau parcours. The Voice, dès le premier jour, tu sais si t'es bon, parce que si t'arrives à retourner un siège, c'est déjà la classe. Et donc j'ai décidé d'accepter le défi pour cette raison-là, mais aussi... Et tu vas très vite comprendre que je suis assez souvent comme ça. Mais aussi parce que mon beau-frère, qui était fan de The Voice, me dit « Écoute, c'est une émission super regardée en France, mais franchement, t'as aucune chance. Tu vas peut-être être admis, mais il y a que des grands, grands, grands chanteurs qui vont en finale, demi-finale, etc. T'y arriveras pas. » Et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut me dire quand on a envie de me décourager. Ça marche pas du tout. Donc... pour plusieurs raisons, mais surtout pour celle-ci, j'ai décidé d'accepter le challenge et de tenter ma chance à The Voice.
Génial. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne regrettes pas d'avoir fait ce choix.
Je ne regrette aucun de mes choix parce que, évidemment, je suis un homme heureux. Mais je pense que j'aurais peut-être trouvé le moyen d'être heureux dans tout ce que la vie m'aurait proposé. Je n'ai pas tendance à me plaindre. J'essaye de voir le bon côté des choses la plupart du temps et d'essayer de transformer même ce qui me correspond moins en une leçon ou en quelque chose dont je pourrais quand même tirer une force.
Et comment ça a été accueilli par ta famille ?
À l'étape de The Voice, je dirais que c'était plutôt ludique, parce que voilà, c'est un concours et qu'on peut suivre et que, au pire, pour 99% des gens, ça dure quelques semaines ou quelques mois. Ce qui était un petit peu plus compliqué, c'était... quelques mois avant The Voice, quand je leur ai dit « je vais pas tout de suite démarrer mon job de dentiste parce que j'aimerais tenter de faire de la musique un petit temps », eux, ils se sont inquiétés. Ils essaient quand même de m'encourager à démarrer. Ils me disent « pourquoi tu ferais pas de la musique en parallèle ou bien tu travaillerais de nuit et tu aurais les jours pour ça ?» Enfin, pour les rassurer, parce que c'est très important pour moi aussi d'être respectueux de mon entourage qui me veut du bien, je leur ai dit « ça durera pas plus d'un an ». Et si au bout d'un an, je vois que la musique n'a pas évolué, vous inquiétez pas. Donc, quelque part, cet appel de The Voice, c'était un peu un pas dans mon sens où je leur disais « tenez, regardez, là, j'ai été appelé par un truc qui pourrait peut-être m'apporter des ouvertures par la suite ». Donc, je crois qu'à l'étape de The Voice, ils étaient déjà un tout petit peu plus habitués à l'idée que je m'oriente vers la musique. Mais moi-même, j'étais pas encore sûr à 100% de ce que j'allais devenir. Mais en tout cas, ça commençait à se dessiner.
Et cette aventure, comment tu l'as vécue ? Le fait d'être regardé par des millions de téléspectateurs chaque samedi soir, est-ce que tu t'es dit que ça allait changer ta vie ?
J'ai pas pris pleine conscience de tout ça, parce que je suis arrivé déjà de l'étranger. J'avais pas l'habitude de la valeur, par exemple, de chaque média français qui parlait de moi. Je connaissais pas trop les réseaux sociaux, tout ça, c'était un peu étranger pour moi. Et comme j'étais parmi les plus âgés, en gros, j'avais 29 ans, alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient 17, 20, 22 ans, et puis que j'avais déjà un parcours assez structuré derrière moi, je crois que ça m'a permis d'avoir un recul qui m'a servi à la fois dans The Voice, mais aussi dans plein d'étapes par la suite, sur l'importance, sur le côté est-ce que c'est vital ou pas. Dans ma tête, je l'ai vécu comme un divertissement. Et j'ai eu la chance de voir les choses ainsi parce que non seulement ça m'a pas traumatisé de ne pas gagner The Voice, je crois que c'est grâce à cette légèreté avec laquelle j'abordais le truc que j'ai pu aller au bout, en fait, sans me décourager à aucun moment, sans avoir peur de la concurrence. J'ai vécu ça comme une aventure ultra positive parce que ça me paraissait être un jeu, quoi. Tu vois, un petit bonus que j'ai eu la chance de vivre et je le vivais vraiment comme ça. C'est vraiment un privilège de chanter avec les plus grands, d'avoir des coachs incroyables, d'avoir un public qui nous soutient, qui nous attend à la sortie. Enfin, c'était quelque part, pour moi, à cette époque, une parenthèse enchantée que j'avais envie de vivre pleinement et de garder un maximum de bons souvenirs.
Et donc, l'aventure s'achève de The Voice. Et là, le véritable, en fait, finalement, tournant que tu as pu prendre dans ta vie, il a été pris quand tu as participé à l'Eurovision. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où tu as accepté de participer à l'Eurovision, c'était très courageux parce que la France, depuis des années, avait des classements horribles. Toi, tu n'avais pas de maison de disques à cette période-là. Qu'est-ce que tu te dis? Pourquoi tu acceptes de faire l'Eurovision? Parce que ça aurait pu aussi être vraiment la fin de ta carrière.
Tu as raison. Mais la fin de ma carrière serait le début d'une autre. T'as remarqué que je rebondis et puis que j'avais déjà ce sacré bagage derrière moi. Mais j'ai pris le risque sans véritablement sentir que j'en prends un. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai grandi dans une famille qui adore l'Eurovision. Culturellement, on est ultra fan. Et donc, je n'y voyais pas les aspects négatifs très très vite. J'ai balayé toutes les questions que pouvaient me poser des journalistes ou même des gens dans la rue ou mes proches. Quoi, t'as pas peur, c'est un suicide, t'as fait tout un album, ton projet est prêt, pourquoi le sacrifier avec l'Eurovision, tout le monde finit dernier et tout, alors que dans ma tête, non, l'Eurovision c'est grandiose, je vais quand même chanter ma chanson qui parle de ma vie à 200 millions de personnes. Quand est-ce qu'on pourrait avoir une occasion comme celle-ci? C'est tellement génial. Et je crois que, au fur et à mesure, des interviews et du public qui commençait à me connaître et à apprendre qui j'étais, tous les détracteurs sont finalement devenus des alliés. Ils se sont dit, très franchement, la chanson est cool. En plus, on avait été malin parce qu'on l'a laissé passer en radio avant d'annoncer l'Eurovision. Donc, elle avait déjà sa fanbase, la chanson. Mais la chanson est cool, le candidat est convaincu. Et je crois que j'ai bénéficié d'un soutien sans précédent grâce à ça, tu sais. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième que j'évoquais tout à l'heure, au pire des cas, je serais dentiste. Je dirais, il y a des issues bien plus difficiles que celle-ci. J'aime bien ce métier. Et quoi qu'il arrive, j'avais pas d'espoir immense quant à ma carrière musicale. Je l'ai vécu comme un bonus depuis le départ. Donc, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'ai d'autres solutions. Mais en effet, c'était une occasion de vivre quelque chose d'énorme. Et puis, étant quelqu'un d'assez pragmatique, même de très très pragmatique, je considérais qu'une stratégie de construction de carrière qui ne comporte pas une part de risque en elle aujourd'hui, quand il y a autant de concurrence et autant de gens doués autour, est vouée à l'échec, en vérité. Il faut essayer d'être disruptif, il faut essayer de prendre les chemins que personne ne prend pour se démarquer, pour se créer une place. Et j'avais aussi cette volonté en moi de passer par la porte que personne n'emprunte.
Ouais. Et tu t'es préparé comme un sportif. Est-ce que, quand tu as compris ton score, tu as tout de suite compris que ta vie allait changer?
Moi, j'ai compris que ma vie allait changer avant l'Eurovision même. Quand j'ai vu comment les choses évoluent, comment le public est là pour soutenir, comment, en fait, maintenant, les gens sont en train de passer outre le candidat éphémère qui doit ramener un bon score à la maison et voyaient un truc plus large. Vous voyez, une personne, un être humain, un projet de carrière, un album qui attendait derrière. Je crois que la prise de conscience a été progressive, mais c'est carrément dans la phase de préparation de l'Eurovision, en voyant les retombées, en voyant les échos, en voyant les retours et l'intérêt grandissant pour mon projet, que j'ai réalisé que c'était pas une erreur. Et je me suis moyennement soucié du score. Quand on est arrivé sixième, évidemment que j'étais très très heureux parce que c'était un changement radical par rapport à ce qu'on a eu, mais ma vision était beaucoup beaucoup plus large. Je vivais aussi intensément les 3 minutes sur scène où je défendais ma chanson que les 2 mois qui précédaient, les 2 mois qui ont suivi. Pour moi, c'était le moment où il fallait battre le fer, le moment où il fallait exister, prendre sa place, parce qu'après, il sera difficile de la réclamer. Et même si je le dis aujourd'hui en sachant que j'ai pas du tout arrêté de me battre pour ma place et que même aujourd'hui, après 3 albums et tout ce qu'on a pu vivre, je suis tous les jours à la recherche de mon prochain défi et de ma prochaine façon de m'affirmer et de légitimer ma, ma carrière. À l'époque, j'avais quand même cette espèce de conviction puérile en me disant que si on donne tout pendant 4-5 mois maintenant, ça y est, on a une carrière, on est tranquille pour la vie. Mais c'est normal, on est innocent et on fait des projets un peu grandioses et fous.
Et à quel moment tu t'es dit « bon, bah, cette clinique dentaire, je pense que je ne vais pas l'ouvrir ».
Je pense que j'ai plus ou moins basé l'idée de la clinique à la fin de l'année 2016, 6 mois après l'Eurovision, quand sont arrivés les Energy Music Awards. Si l'Eurovision mettait en avant ma candidature et le drapeau français en premier, au NMA, puis dans plein de récompenses comme les MTV Awards, les talents W9 et W9 d'or, etc., qu'on a reçus, mais surtout au NMA, j'ai eu à la fois la confirmation en étant la révélation de l'année. Je crois qu'après les Energy Music Awards, puis ont suivi les Enfoirés, etc., j'ai commencé à sentir que le public m'adopte, que le métier aussi m'offre une place dans cette fameuse cour des grands, et que là, je pourrais m'imaginer une suite, même si j'ai encore tout à prouver, qu'on ne construit pas une carrière sur une chanson. Mais les choses avaient l'air bien parties. Je savais que j'avais un long chemin devant moi, mais je voulais tout donner pour le prendre et pour réussir dans ce chemin. Donc c'est à ce moment-là où commençait à s'estomper ce regard constant que j'avais à l'arrière pour guetter le cabinet dentaire qui serait là pour me sauver. Je pense que je l'ai délaissé un petit peu à ce moment-là.
Et comment ça a été accueilli à nouveau par ta famille, du coup?
Je crois que la famille, plus ça allait, plus elle était bluffée et plus elle comprenait qu'il n'y avait pas d'issue, que quand quelqu'un vit sa passion avec conviction, mais aussi avec responsabilité, parce que je pense que c'est ce qu'ils espéraient pour moi, que je ne fasse pas d'erreur, que je ne devienne pas un artiste fou qui ne se structure pas, qui ne crée pas de famille, alors que pour moi la famille c'est l'élément fondamental de derrière et devant tout. Donc j'ai évidemment maintenu ma vie de couple qui est primordiale. Si tu veux, j'ai fait tout ce que j'ai fait professionnellement sans oublier les fondamentaux. Ma relation avec la foi et la religion, la tradition, mes liens constants avec ma famille, mes grands-parents, mes grands-oncles, mes oncles et tantes, mes cousins. J'ai souhaité rester aussi proche que possible de moi-même et de ces valeurs initiales parce que je croyais, en tout cas aujourd'hui j'en suis sûr, mais à l'époque je croyais comprendre que le risque quand on perce et le risque quand on démarre dans cet univers, c'est que la lumière nous happe et nous empêche de nous éblouisse quoi et nous empêche de se concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Voilà, et il est là, je crois, le secret. Je pense que c'est ce qui a surtout rassuré les miens, quoi.
Et au sein de ta famille, d'ailleurs, ta carrière t'a aussi permis de prendre certains tournants dans certaines relations, par exemple avec ton père. La belle chanson « À ta manière », tu dis que ça a permis que votre relation prenne un tout autre tournant.
Absolument. Ce que j'ai pu découvrir, et ça c'est beaucoup plus personnel, mais au travers de mes albums et mes chansons, c'est la capacité que j'avais en tant qu'être pudique d'utiliser ça comme moyen de transmission de choses que je savais pas dire autrement que par la musique. La protection d'une mélodie et d'un texte qui est déjà écrit m'a apporté beaucoup de liberté en fait que je n'avais pas auparavant parce que je savais pas exprimer mes idées et je savais pas non plus parler de mes problèmes et de mes complexes. Et je pense que le titre qu'il représente le plus a été « À ta manière ». Parce que mine de rien, c'est une chanson qui m'a permis à quel âge j'avais en 2016, j'avais 32 ans, à 32 ans, de dévoiler à mon père tout ce que j'ai pas pu lui dire et qui était là entre nous deux, quoi. Alors on a toujours été proches avec papa, hein. C'est pas que j'ai pas été abandonné et récupéré après une chanson, absolument pas. Mais proche dans le silence, proche dans des échanges peu nombreux et presque sans mots, et j'ai senti que cette chanson avait la capacité de briser la glace. Et quand il l'a entendue pour la première fois, il me l'a pas montré, mais je pense qu'il a pris conscience de quelque chose. Et par la suite, je crois que ça a ouvert un nouveau canal de communication avec lui, qui depuis a vraiment changé nos rapports l'un à l'autre. Mais j'ai profité de cette possibilité que me donnait la musique pour ouvrir mon cœur et ouvrir et me livrer à plein d'autres égards et sur beaucoup de sujets que je savais pas aborder autrement.
C'est ce que dit aussi ta femme. Elle aussi, elle trouve que la musique, c'est quelque chose que tu utilises. Par exemple, quand tu as sorti la chanson « Je reviendrai », c'était un petit peu un message d'espoir pour elle de se dire que votre relation allait pouvoir poursuivre, parce que c'était pas facile pour elle aussi au début de te voir à Paris, elle en Israël. Donc elle a été hyper courageuse aussi. Et c'est chouette que tu aies pu la rassurer à travers la musique.
Je suis d'accord, c'est vrai. Et elle aussi m'a rassuré en comprenant cette chose. Je suis pas quelqu'un de très verbal, surtout quand il s'agit des sentiments et des problèmes plus intimes, quoi, plus personnels. Donc, je remercie la musique de m'avoir permis de résoudre ce problème vraiment comme une thérapie et une thérapie de relation, quoi.
Et t'es depuis devenu papa?
Oui.
Est-ce que tu penses que justement aussi d'avoir analysé un petit peu cette relation avec ton père à travers la musique, d'être artiste, est-ce que tu penses que ça fait de toi un meilleur père ?
Je pense que ce qui fait de moi un meilleur père, c'est pas autant d'être artiste que de grandir et de m'accomplir humainement et familialement. Je crois que les années passent, les défis changent et il faut toujours savoir s'adapter. Et cette capacité-là à encaisser les coups, à développer une résistance envers les difficultés, nous donne aussi quelques outils qui servent beaucoup dans le rôle de parent. Moi, je pense que j'affronte tous les jours la vie, le monde autour, à l'extérieur, avec les cadeaux et les claques qu'il peut m'offrir. Et ça me fait grandir et ça me permet de transmettre des outils, je crois, sans prétention aucune, mais éducatifs à mon petit.
Et c'est quand même un sacré tournant de devenir père et un sacré challenge. Mais toi, j'ai l'impression que tu recherches tout le temps les challenges. Par exemple, tu as décidé de participer à un Ironman. Donc, c'est un événement sportif qui est très intense, de dépassement de soi. Et on en parle parce que c'est important, ça t'apporte ton prochain virage, du coup.
Oui, eh bien, je précise que c'est un semi-Ironman, mais je participerai bien volontiers un jour à un Ironman. Ça consiste à faire un triathlon très très long qui démarre sur 2 km de natation, puis s'enchaîne avec 90 km de vélo et pour finir 21 km, donc un semi-marathon de course à pied. Tout ça, évidemment, sans pause, ça dure plusieurs heures. C'est très éprouvant, ça demande des mois de préparation. Et là aussi, on en revient à ce copain qui va me dire « si t'es chaud », et évidemment que quand on me dit « si t'es chaud », je veux prouver que je le suis. Donc c'est parti de ça, mais ce que j'avais pas du tout imaginé, c'est que j'allais beaucoup apprécier l'exercice et que j'allais trouver que ça m'apporte énormément, humainement, physiquement, mentalement. Et j'ai décidé de continuer. Ça n'est pas resté un événement ponctuel.
Et tu disais que ça avait fait ressortir beaucoup d'émotions, puisque alors que tu es quelqu'un qui pleure difficilement, à la fin de cette épreuve, tu as fondu en larmes.
Oui.
Comme si ça t'avait permis de libérer.
Et c'est ça. C'est là où j'ai compris que cette discipline m'apportait quelque chose. Vraiment, ça m'a donné énormément de faire du triathlon, mais il aurait suffi que de cet instant-là où je n'avais plus la capacité de me retenir, de poser ces barrières-là de pudeur qui me protègent tout le temps. Ce côté non expressif que j'ai dû hériter de mon père a complètement disparu, s'est évaporé quand j'ai terminé mon Ironman. L'émotion était tellement intense que je ne savais pas arrêter mes larmes et j'ai pleuré à chaudes larmes pendant longtemps, peut-être une heure, sans m'arrêter, comme un gamin. Je sais pas si c'était l'épuisement, je sais pas si c'était l'accomplissement, je sais pas si c'était un retour à l'enfance ou au défi que j'imaginais ne jamais relever, mais un cumul d'une vie entière peut-être. C'est complètement dégagé, à exploser à cet instant-là où j'ai franchi la ligne d'arrivée de l'Ironman. Et je pense que c'est ce qui a généré en moi un affect très très fort pour cette discipline parce qu'elle m'a mis dans des situations que j'ai jamais connues auparavant. Et baisser la garde, c'est très sain, je pense.
Et ça t'a également apporté le nouveau virage que tu es en train de prendre, puisque c'est à l'occasion de ce triathlon que tu as été repéré par Steve Suissa, un metteur en scène de renom qui a notamment mis en scène Francis Huster, Thierry Lhermitte. Il recherchait un comédien pour son seul en scène sélectionné. Il avait besoin d'un sportif qui avait vraiment beaucoup de volonté. Il a été interpellé par ta performance sportive et donc il a pensé à toi. Est-ce que toi, de ton côté, tu as tout de suite accepté ce challenge parce que c'est un sacré défi à relever quand même?
Ouais, en fait, ça s'est construit en étapes. C'est vrai que la première chose qui l'a interpellé, c'est d'avoir vu dans les magazines et sur les réseaux sociaux que j'avais fait un triathlon. Donc pour lui, artistes et sportifs se sont rejoints à cet instant précis. Mais véritablement, c'est en allant creuser davantage sur la personne que je suis et mon parcours de vie qu'il a été convaincu. Et il m'a appelé une fois qu'il a assimilé toutes ces choses dans sa tête en se disant « Je pense que c'est lui qui devrait jouer cette pièce. » Alors, très honnêtement, je n'avais aucune expérience théâtrale. Et quand je reçois un coup de fil de Steve Suissa, je pense que c'est soit une erreur, soit il va me demander de le connecter à quelqu'un d'autre. Mais en fait, il s'intéressait à moi. Et c'est là que j'ai essayé de comprendre pourquoi. Mais si on croit au destin, ma première chanson dont on s'est parlé tout à l'heure, j'ai cherché le titre de l'Eurovision. On a tourné le clip dans le centre sportif Alfred Nakache. Et quand il m'a demandé de jouer Alfred Nakache dans sa pièce, tout de suite, je savais de qui on parlait. Et je me rappelle m'être intéressé à ce personnage qui m'évoquait rien au départ, parce que je ne savais pas qui c'est ce Alfred Nakache. Et c'est en m'intéressant à son histoire que j'ai été bouleversé à la fois par sa vie, mais aussi par son caractère et surtout par le fait que personne ne le connaît.
Est-ce que tu peux en dire un peu plus, justement, quelques mots sur sa vie ?
Absolument. C'est un destin incroyable et complètement oublié d'un homme... un Français d'origine algérienne, de Constantine, qui avait peur de l'eau mais était fasciné par les nageurs depuis son plus jeune âge. Et un jour, son père l'encourage et le pousse à nager. Il est phobique et il commence à nager à 10 ans. Il y parvient et à 16 ans, il devient déjà champion d'Afrique du Nord. À 18 ans, il intègre l'équipe de France et le Racing Club de France. Et à partir de là commence une série de victoires, de records, de Jeux Olympiques. Et ça devient le plus grand nageur de sa génération. En 1942, il est à l'apogée de son succès. Et en fait, c'est le Mbappé de la natation, si on veut comparer à des figures actuelles. Et malheureusement pour lui, il est juif et le nazisme commence à monter. Il y a des collabos en France et un de ses concurrents à la nage décide de le dénoncer à la Gestapo. Et il va se retrouver avec sa femme et sa fille de 3 ans dans les camps de concentration à Auschwitz en Pologne. Il va tout faire pour survivre, pour les retrouver. Quand il rentre de la guerre, il apprend au bout de quelques mois que sa seule raison de survivre, sa femme et sa fille, ont été assassinés dans les camps. Et là, ses amis du club de natation vont le prendre sous leur aile. Il pèse 39 kilos à cette époque, il est complètement détruit par la guerre. Et ils vont l'entraîner et le remettre à l'eau et lui permettre de redevenir un champion de la natation jusqu'à reparticiper aux Jeux Olympiques après la guerre. Et cette histoire héroïque d'un homme qui n'a pas voulu baisser les bras et qui a accepté des défis tout le long de sa vie, volontaire ou involontaire, en se disant « je vais y arriver, je vais y parvenir, je vais franchir », m'avait donc bouleversé en 2016 quand je l'ai découverte, et bouleversé une seconde fois en 2018 quand Steve Suissa, qui est un grand metteur en scène, comme tu l'as dit, me propose d'incarner ce personnage. Je me sentais franchement pas suffisamment solide et pas avoir les épaules pour. J'étais à peine à mes débuts en tant que chanteur. Est-ce que franchir le pas... Mais sa confiance et c'est la conviction qu'il avait m'ont quand même poussé à accepter le défi, comme à plusieurs étapes dans ma vie jusque-là, et à me dire qu'à force de volonté, de travail, on peut y arriver, surtout quand on a envie d'incarner quelqu'un qui n'avait que de la volonté tout le long de sa vie. Donc en hommage à Alfred Nakache et à l'audace qu'a eu Steve, j'ai décidé d'accepter le challenge. Et aujourd'hui, je fais du théâtre.
Je dois dire que j'ai eu la chance de venir assister à l'avant-première et je t'ai trouvé magistrale. C'est pas évident de se projeter parce que c'est complètement l'opposé de ce que tu peux insuffler en tant que chanteur. Vraiment, enfin... On a les poils dressés sur les avant-bras. C'est une prestation qui est incroyable.
Merci.
Et forcément, je voulais savoir au niveau de la préparation, est-ce que tu t'es beaucoup préparé? Est-ce que tu as beaucoup lu? Comment tu es rentré en immersion avec ce personnage et cette nouvelle discipline?
Alors justement, parce que le défi me paraissait colossal, évidemment que je m'y suis préparé de manière très sérieuse parce que je voulais quand même mettre les chances de mon côté d'y parvenir. Je savais que le travail serait la clé. Donc au-delà des prérequis naturels et traditionnels de répétition, j'ai travaillé le texte, de très très longs textes que je dois lire par cœur pendant 1h20 avec un coach. J'ai surtout demandé à nager afin de connaître les sensations de cette légende de la natation et aussi apprendre cette discipline de la brasse papillon qui ne se pratique plus aujourd'hui et qui est elle aussi primordiale pour comprendre le style de nage qu'il avait et peut-être mieux comprendre le personnage et se rapprocher de lui au travers des sensations. J'avais besoin de m'imprégner corporellement de ce qu'il vivait. Je suis allé rencontrer sa famille pour avoir des témoignages plus intimes et connaître aussi les rapports qu'ils ont eus avec lui, des choses qui sont peut-être pas dans la pièce, mais qui m'ont permis de mieux comprendre le personnage, ses blagues, ses plats préférés, sa façon de se tenir, ses jeux avec ses nièces et neveux, la façon dont le traumatisme l'avait impacté après l'Holocauste. Toutes ces choses-là qui ne se disent pas dans les livres et dans les documentaires que j'ai pu lire. J'ai vraiment voulu compléter l'image que j'avais de ce personnage pour lui rendre hommage à la hauteur de ce qu'il était et aussi en sachant que je suis pas en train d'incarner un personnage de fiction ni un personnage historique, mais quelqu'un qui a bel et bien des membres de sa famille qui l'ont connu personnellement et qui serait susceptible de voir la pièce. Et pour cette raison-là, j'ai considéré très très important de me rapprocher de la vérité au mieux possible. Donc ça a été un challenge pour moi, un challenge aussi de mémoire et de vérité, et la découverte d'une nouvelle discipline. Voilà tout ce qui m'a motivé en fait à donner le maximum pour cette pièce.
Tu peux être fier de toi en tout cas, parce que je pense que si sa famille tombe sur la pièce, effectivement, ils trouveront que c'est un bel hommage que tu lui as rendu.
Figure-toi que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs membres de sa famille jusque-là, mais surtout sa sœur, 94 ans, qui s'est déplacée spécialement pour nous voir à Toulouse, et qui a demandé à me voir après la pièce, donc je lui ai couru dans les bras et ça a été un moment inoubliable.
J'imagine que ça a dû être particulièrement émouvant. Et est-ce que tu as hésité avant de t'imprégner d'un sujet aussi éloigné de ce que tu es toi en tant que chanteur et d'accepter un seul en scène aussi différent de ce que tu peux proposer d'habitude?
C'est justement pour ça que j'ai pris le temps d'étudier cette demande, parce que des demandes j'en ai eu plein. Mais forcément, je pense que ceux qui ne prenaient pas de risques se disaient « Bon, il est mignon, il est charmant, on va lui proposer des rôles qui lui ressemblent. » Mais ils n'avaient aucun recul et je peux comprendre. Ils ne voulaient pas prendre de risques en se disant « Je ne sais pas comment il va jouer, donc ça va être soit un lover, soit un pote de la bande qui est sympa et qui rigole avec tout le monde. » Mais j'y voyais pas suffisamment de défis et aucune métamorphose potentielle. Donc pour moi, c'était des projets court-termistes. C'était pas des choses qui pouvaient faire évoluer ma carrière et me faire évoluer en tant qu'artiste. En revanche, quand Steve est venu, quand j'ai vu désolé pour l'expression, mais à quel point il posait ses couilles sur la table pour me proposer un projet pareil, c'est son nom en fait qui peut mettre en danger quand il engage un non-comédien. Et je pense que c'est ce que je disais au début, c'est sa confiance qui et la projection que j'avais de l'effort de jeu et de la transformation que je pourrais faire dans ce projet que j'ai accepté. Je me suis dit, au pire des cas, ça pourrait être un échec, ça pourrait être aussi un succès, mais si c'est un échec, j'aurais fait un projet que je ne regretterai jamais.
Et comment tu as vécu la différence justement, parce que on en parlait un petit peu juste avant. L'ambiance dans les salles est tellement différente des salles de concert. Une salle de concert où tout le monde chante, tout le monde crie, tout le monde applaudit. Et d'un seul coup, te retrouver sur scène face à un silence de cathédrale et être toujours toi sur scène, mais ne pas pouvoir ressentir ton public. Comment est-ce que tu l'as vécu?
La comparaison, elle est inévitable parce qu'il y a beaucoup de points communs. En effet, j'attends le moment, je monte sur scène. Il y a des gens qui regardent. Donc, quelque part, il faut se défaire de la peau du chanteur. parce que les repères sont tout autres. Et ça a demandé beaucoup de travail pour moi, parce que j'ai tellement l'habitude de monter sur scène avec cette maîtrise-là de mon répertoire, de mes chansons, mes musiciens qui sont avec moi. Mais finalement, l'exercice du théâtre est extrêmement différent. Parce que on a beau être expérimenté en tant que chanteur, mais premièrement, la maîtrise, entre guillemets, hein, j'utilise ce mot qui est un peu radical, mais du public, ne se fait pas quand il est actif et chante et danse et tape des mains, mais justement quand il est attentif. Donc c'est le silence qui prime. Et dans un seul en scène, si je décroche, si je me tais, si je perds le fil, il n'y a rien pour me rattraper. Donc on est vraiment comme un funambule tout le long de la pièce à espérer que tout se passe bien et qu'on arrive à l'autre bout, quoi. C'est un challenge qui est rempli d'adrénaline pour moi, alors que dans la chanson, sans négliger, je prends énormément de plaisir. Mais aujourd'hui, l'expérience, et surtout quand on a un spectacle qui est rodé, puis on a fait presque 300 concerts avec mes musiciens, on est couvert, on connaît, on sait où on s'oriente. Et si jamais peut arriver un trou de mémoire ou un moment où on a une extinction de voix ou quoi, on a toujours les musiciens autour pour combler. Il y a une espèce de travail d'équipe qui aide en fait à traverser les concerts en toute sécurité. Ce que je n'ai pas ressenti encore au théâtre. Et franchement, ce qui m'a le plus bouleversé, c'est si je me tais, on n'entend plus rien. Mmh. Et ce silence là, cette patience là, cette progression beaucoup moins énergique ou en tout cas énergique, mais d'une autre façon. C'est ce qui m'a vraiment troublé et plu dans la discipline théâtrale.
Surtout que chez le comédien, le silence, il y a énormément d'émotions qui passent dans un instant de silence, contrairement à la musique où c'est pas super en général.
Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait.
Quand il y a
exactement, exactement.
En tout cas, ce que je trouve hyper intéressant dans ta manière de parler de cette discipline, c'est que Diderot, dans Le paradoxe du comédien, il expliquait la différence entre certains acteurs qui voulaient jouer d'âme, c'est-à-dire se servir nécessairement de leur vécu pour le ramener dans le personnage. Et donc, si tu jouais une femme qui a perdu son enfant, il fallait que tu l'aies perdu, donc tu te replongeais chaque jour. Ou l'acteur qui jouait d'intelligence. Et toi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. T'as voulu ramener complètement l'univers d'Alfred Nakache, l'apprendre très intelligemment et le ramener dans le personnage et l'apporter à ta vision de lui que tu livres au public.
Ah, merci, ça me touche énormément. J'ai la chance de ne pas être un acteur d'âme dans le cas d'Alfred Nakache parce oui. qu'on ne souhaite à personne la vie qu'il a eue, mais est inévitable la projection de savoir qu'un trentenaire qui a une femme et un enfant de 3 ans, c'est donc exactement mon cas de figure, qui a une notoriété, donc pareil aussi, se retrouve du jour au lendemain dépossédé de tout, quoi. Et donc il y a une forme de projection malgré tout dans un espèce d'imaginaire où on se dit mon Dieu, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, et on est troublé, en tout cas dans mon cas je suis troublé par ces petits points qui me rapprochent de ce qu'il a vécu.
Et sont mis en avant aussi dans la pièce, et je trouve ça super important, des périodes dont on parle un petit peu moins, à part dans certains livres, comme par exemple Primo Levi qui est cité, ou Elie Wiesel, La Nuit. Et je trouve que ça rend la pièce aussi encore plus forte, le fait de parler de, par exemple, ces marches de la mort, dont on parle beaucoup moins que d'autres choses et qui ont été des horreurs de l'histoire. Et ça rend la pièce très, très forte.
Moi, je suis convaincu que cette pièce a un aspect éducatif important. Et ça me charge davantage dans la transmission. Et quelque part, ça va bien au-delà de mon projet artistique personnel. Je sais qu'il y a une espèce de mission, je le dis en toute humilité, mais une mission importante à remplir quand on incarne une époque et un personnage de cette époque, surtout quand des jeunes qui connaissent moins sont dans la salle et découvrent.
Et tu souhaites que le théâtre prenne une place importante dans ta vie ?
Je voudrais, oui. Je le fais par passion. J'ai toujours aimé les deux. Mais le premier virage a été essentiellement musical. En effet, on pouvait pas tout faire en même temps. Et aujourd'hui, je me sens prêt à rajouter une corde à mon arc. Parce que c'est enrichissant aussi pour moi.
Et tu penses que cette expérience de la pièce va aussi apporter une influence sur ton projet musical ?
Forcément. Moi, je pense que tout est entrelacé. Mon projet musical sera toujours le fruit de mes émotions, de tout ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris, de ce que je suis devenu. Et comme l'expérience de théâtre est formatrice, il y aura un lien, pas forcément un lien concret et direct, mais un lien qui va se refléter dans ma musique, c'est inévitable.
Je te remercie beaucoup, Amir.
C'est moi qui te remercie.
Très intéressant, je te remercie d'avoir pris le temps.
C'était passionnant. Merci beaucoup et bonne chance à ce podcast. C'est super cool.
Bah, merci à toi. À bientôt.
À bientôt.
Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.